Alors, nous allons poursuivre une étude que j'ai commencée il y a 15 jours, je crois, qui s'intitule « Jeu de cache-cache dans le jardin d'Éden ». Donc, alors, nous revenons ce matin sur cette étude que nous avions commencée à propos de la vie des premiers hommes dans le jardin d'Éden. Pour mémoire, nous avions vu, c'est un résumé, hein, qu'Adam et Ève étaient des êtres créés à l'image de Dieu, libres, dotés de toutes sortes de capacités, ils étaient intelligents, avertis et instruits directement par Dieu, établis en autorité sur toute la création terrestre par Dieu lui-même, que dans le jardin ils étaient occupés à travailler, ils avaient reçu la mission de travailler, de cultiver le jardin, et par-dessus tout, ils disposaient de l'accès à l'arbre de vie qui donnait la vie éternelle, n'est-ce pas ? Et ils vivaient dans l'indéniable présence de Dieu, puisque Dieu leur parlait ou leur apparaissait. Je n'étais pas là pour voir sous quelle forme, mais en tout cas, il y avait sa voix au minimum. Donc cette étude, rappelons-le, vise non seulement à mieux comprendre la responsabilité d'Adam et Ève dans les épisodes de la tentation et puis de la chute, mais à établir aussi dans nos esprits une image plus juste à propos des intentions originelles de Dieu, et ainsi lui faire d'une certaine façon, et j'y tiens, justice. Car nous avons été parfois nombreux à avoir cru ou à croire qu'il avait piégé l'homme en laissant à sa portée le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, cette étude n'est pas destinée à vous culpabiliser. Je pense qu'on a chacun suffisamment de culpabilité liée à cette histoire qui nous concerne tous. Mais c'est pour voir les choses en face telles qu'elles se sont produites. Et je vous avouerai que lorsque j'ai commencé à travailler cette partie de la Bible, que je n'avais jamais travaillée en 20 ans de conversion, j'ai commencé cette étude et d'autres études par la suite il y a à peu près un an, je me suis aperçu que j'étais passé à côté d'une réalité. Vous verrez tout à l'heure si vous la partagez avec moi. En tout cas, j'en suis arrivé à certaines conclusions. Vous verrez bien. Alors, cette étude commence par le verset, donc les versets 15 à 17 de la Genèse, de livre de la Genèse. Alors, je lis. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Vous voyez, j'ai souligné garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On pense souvent qu'avec Moïse, on a découvert les commandements, mais c'est faux. Il y eut un premier commandement à l'origine des temps dans le jardin d'Éden. Alors la première partie de cette étude se concentre sur l'épisode de la tentation et de la désobéissance. Nous allons lire Genèse 3, versets 1 et suivants. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors, on pourrait faire d'autres prédications là-dessus. J'ai dit tout à l'heure que l'homme et la femme étaient intelligents. Là, on nous dit que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais de quoi s'agit-il? Je ferme la parenthèse. On verra peut-être plus tard. La femme donc vit que l'arbre était bon, précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Je relis. Là, il faut être attentif sur cette phrase. Elle en donna, elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il n'était pas à l'autre bout du champ. Il était auprès d'elle et il en mangea. Nous lisons ici qu'Adam mange du fruit alors qu'il est en présence d'Ève. On peut alors immédiatement se demander ce que Adam faisait au moment des échanges entre sa compagne et le serpent. Ne savait-il pas qu'en la laissant manger de ce fruit, elle s'exposait à la mort? Pourquoi n'est-il pas intervenu pour défendre la vie de sa compagne en imposant le silence au serpent et en le chassant du jardin? Qu'avait-il à gagner à agir ainsi? N'avait-il pas reçu dès le départ l'ordre de Dieu de garder le jardin? Laissait-il Ève s'avancer en première ligne de façon à couvrir ses arrières tout en bénéficiant du résultat de ses tractations? Nul ne peut le dire. Était-ce bien là le comportement attendu d'un homme vis-à-vis de sa compagne? Du gardien en chef du jardin, du fondé de pouvoir de Dieu sur la terre. On voit aussi dans ces versets qu'Ève donne à Adam du fruit défendu comme si cela relevait de l'évidence qu'il y goûte sans broncher, sans résister, et l'on constate qu'au final, ils succombent tous les deux à la tentation quasi simultanément et contre toute attente. C'est quand même surprenant. On est surpris de cet enchaînement des choses. Question. Est-ce à dire qu'Adam et Ève étaient tous les deux déjà bien amorcés dans la convoitise du fruit de l'art de la connaissance du bien et du mal, et depuis plus longtemps que le texte ne le laisse supposer? L'intervention du serpent a-t-elle finalement contribué, d'une certaine façon, à révéler leur cœur, l'état de leur cœur, à révéler leurs pensées cachées? L'intervention du serpent les a-t-elle aidés à s'avouer à eux-mêmes qu'ils étaient déjà finalement prêts à sauter le pas de la désobéissance? En tous les cas, et c'est une supposition de ma part, le serpent n'aurait certainement pas réussi à les convaincre aussi facilement si un cheminement de convoitise n'avait déjà largement progressé en leur cœur pour finalement enfanter la désobéissance. Je me base sur un verset de la Bible qui fait écho à cela. C'est dans Jacques 1, verset 15, il est écrit « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » C'est passé la même chose. Hein. Un indice important, le fait qu'aucune discussion n'ait eu lieu entre Adam et Ève, lorsqu'il s'agissait pour Adam de goûter à son tour du fruit, me laisse finalement penser que sa décision avait été déjà arrêtée. La chute de l'homme et de la femme, loin d'être le résultat d'un geste compulsif, une erreur regrettable sous le coup de l'envie, semble de toute évidence résulter d'un long processus jalonné d'étapes. C'est donc sans aucune violence, et je souligne là-dessus, sans aucune violence, il n'y a pas eu de coup de bâton, hein. C'est donc sans aucune violence ni menace que le serpent est parvenu à convaincre Adam et Ève de s'emparer du fruit, d'enfreindre le premier commandement de Dieu et de trahir la confiance de Dieu. Ça s'est fait bien comme il faut. Nous passons à la deuxième partie de cette étude. Examinons le comportement d'Adam et Ève tout de suite après la désobéissance. Alors là, on n'en est pas là. Gérard, on revient là et je vais faire donc un résumé, pardonne-moi. Reviens sur la prochaine, en avant. Donc on va faire un résumé avant de passer à la deuxième partie. Donc on a vu qu'Adam et Ève désobéissent à l'ordre de Dieu, que Adam ne protège pas la vie d'Ève, mais Ève non plus, hein, finalement, elle jette son mari, donc elle l'expose à la mort en lui tendant le fruit. Adam et Ève sont complices dans la désobéissance, puisque il n'y a pas de discussion entre eux, hein. Il semble que tout soit entendu. Leur désobéissance n'est pas un geste compulsif, contrairement à ce qu'on peut souvent s'imaginer. D'accord ? C'est un acte bien réfléchi, parce que sinon c'est trop facile. Le serpent a, semble-t-il, contribué à révéler l'état de leur cœur. Donc ça, c'est le résumé de la première partie. Nous passons, merci Gérard, donc à la deuxième partie. Et nous allons lire les versets tout en les examinant un à un. Genèse, chapitre 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. C'est intéressant. Ce verset exprime le premier mouvement de repli de l'homme vis-à-vis de la femme. Et le premier mouvement de repli de la femme vis-à-vis de l'homme. L'on commence à soustraire la vue de son corps au regard d'un autre qui semble désormais étranger à soi et pourtant si semblable. La relation entre l'homme et la femme commence à se compliquer, à se dégrader, le vêtement matérialisant cette distance qui s'installe. Verset suivant. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, que c'est beau, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ?» Dieu appelle l'homme, qui, on le suppose, est habituellement visible, disponible. Et pour la première fois, l'homme et la femme sont cachés, loin de la face de Dieu. Vous voyez, il y a beaucoup de premières fois dans ce chapitre de la Genèse. Ce mouvement de repli de l'homme vis-à-vis de Dieu, cette fois, dans l'ombre et vers un lieu caché, est le premier réflexe, écoutez bien cela, c'est le premier réflexe de l'homme pécheur qui, soulignons-le, n'est ni le fait de Dieu ni de sa volonté. Quand l'homme pêche, il se cache. C'est son premier réflexe. Voyez, on s'est caché en couvrant sa nudité vis-à-vis de l'autre. Maintenant, on se cache de Dieu. Voyez, c'est incroyable. Hein, c'est ici bien l'homme qui se prive du regard de Dieu, de sa lumière et de son amour. Dieu arrive, lui. Dieu ne rejette d'ailleurs pas l'homme, mais cherche encore le dialogue avec lui, lui donnant ainsi l'occasion de s'expliquer, de s'exprimer. Il le fait. Et pourquoi pas de se repentir? Pourquoi pas? Avez-vous lu que Dieu soit entré avec fracas dans le jardin, accompagné de hordes d'anges, lancés à la poursuite d'Adam? Vous avez lu ça avec moi? Pas du tout. Hein. Non, Dieu se déplace lui-même vers Adam, que c'est beau, dans la bienveillance, en lui demandant simplement, calmement et respectueusement, parce que n'oublions pas, l'homme est créé à son image. Respectueusement, où es-tu? Oui, c'est. Il n'y a pas de violence là-dedans. Il n'y a pas de violence. Verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Regardez bien la succession, hein, l'enchaînement de la logique. Et j'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. Ça ne va pas. Ici, Adam se défend de sa faute, tentant d'échapper. Pardon, pour la première fois, Adam ment ouvertement à Dieu, prétendant s'être caché de peur d'être surpris par lui dans sa nudité, alors qu'en réalité, c'est par peur de l'affronter car il venait de lui désobéir. Vous voyez le mensonge? Pour la première fois, l'homme ment à Dieu. C'est un mensonge. Il n'a pas peur parce qu'il est nu. C'est ici le deuxième mouvement de repli de l'homme vis-à-vis de Dieu, mais cette fois-ci par le biais du mensonge. Les hommes peuplant la terre se reconnaissent-ils dans un tel comportement? Verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que vous avez mise avec moi, m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Alors, j'ai bien souligné la femme que vous avez mise. Ici, Adam se défend de sa faute, tentant d'échapper à sa responsabilité personnelle. Et pour ce faire, que fait-il? Il choisit la stratégie de la double accusation. Pourquoi la double? Ici, c'est le troisième mouvement de repli de l'homme vis-à-vis de Dieu, qui se fait par le biais de l'accusation d'autrui, la négation de ses propres fautes. C'est aussi le deuxième mouvement de repli de l'homme vis-à-vis de la femme. Rappelez-vous, tout à l'heure, l'homme s'est caché de la femme et la femme s'est cachée de l'homme en se couvrant. Cette fois-ci, l'homme dénonce la femme, accuse la femme. Donc, venons-en à la première accusation qui est celle portée sur la femme. C'est une accusation accompagnée d'une formule impersonnelle exprimant le mépris. La femme, cette femme-là, vous voyez, que vous avez mise auprès de moi. Adam parle en effet de sa propre compagne en disant de cette façon. Ève s'attendait-elle à cette trahison de la part d'Adam, son complice, son compagnon, elle qui était la chair de sa chair? Rappelez-vous, la chair de ma chair. Les mots qu'emploie Adam pour désigner Ève surprennent d'ailleurs d'autant plus que le texte dit qu'elle en donna, elle donna du fruit, elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Ce qui suppose qu'il y ait eu entre eux, à ce moment-là, une certaine intimité, une complicité, vous voyez, mais il semblerait que cela n'ait pas duré très longtemps. Les relations hommes-femmes continuent de se dégrader. Accusation de Dieu maintenant. Puisqu'Adam insinue, vous voyez, c'est vicieux, hein. Il n'est pas honnête cet Adam, il insinue. Il insinue qu'après tout, c'est bien de Dieu qui est venue la très mauvaise idée de placer Ève à ses côtés. Hein. La femme que vous avez mise, hein, c'est quand même, c'est pas moi, hein, c'est toi. Hein. Quel manque de respect quand même. Pourquoi Dieu n'avait-il donc pas façonné Ève autrement, après tout, pour qu'elle ne devienne pas pour lui une occasion de chute? C'est la faute de Dieu. Après tout, était-ce bien à Adam de réfléchir et de discerner le chemin à suivre là-dedans? Est-ce que c'était à lui? Quel culot de la part d'Adam, quelle mauvaise foi de sa part, quel manque de respect vis-à-vis de la femme, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la femme. L'humanité est en train de vivre des heures sombres, sombres. La chute, puis ensuite une descente vertigineuse aux enfers. Souvent on reste sur la chute. La chute, c'est un commencement. Après, il y a une descente vertigineuse aux enfers. Ça va beaucoup plus loin que ça. Au final, il n'y eut de la part d'Adam aucune plaidoirie, aucune défense en faveur de sa femme, qui était la chair de sa chair, ni aucun regret au sujet de sa désobéissance, encore moins de la repentance. Au contraire, le refus du dialogue avec Dieu, le refus d'une relation vraie avec Dieu et avec sa compagne. Les hommes peuplant la terre se reconnaissent-ils aujourd'hui là-dedans, dans l'accusation de leur femme, de l'accusation de la femme, de la violence envers la femme, de l'accusation de Dieu concernant leur malheur, du mensonge envers Dieu? Nous reconnaissons-nous là-dedans? Je pense que oui. Nous avons tous péché dans ce sens. Verset 12. Yahvé, Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Vous voyez, moi ce que j'aime dans ce passage, c'est que Dieu est juste. Il commence par le chef du jardin. Il n'a pas commencé par le serpent, la femme, puis il est juste. Il commence par appeler chacun son tour, l'homme, puis la femme, puis après on verra plus tard le serpent, mais vous voyez, ça commence dans l'ordre, et puis toujours dans le calme. Il pose une question, il interroge. Il ne brutalise pas, il n'insulte pas, il ne menace pas. C'est ce que nous faisons, nous. Hein. Nous crions sur les gens. Dieu ne crie sur personne ici. Il parle, il honore la personne qui est devant lui. Quand bien même cette personne est en train de lui mentir, est en train de le trahir, il honore la personne. Dans la même logique que celle d'Adam, hein, ça ne nous étonnera pas, Ève fait le choix de nier sa responsabilité personnelle en désignant elle aussi un coupable, autre qu'elle-même. Mais cette fois-ci, il s'agit non pas d'un humain, mais il s'agit du serpent. Cela ne nous dit vraiment rien? N'est-il pas plus facile de reporter la cause de nos échecs? De reporter la cause de nos péchés, n'est-ce pas? Sur Satan et ses démons, plutôt que de nous examiner nous-mêmes. C'est très facile. Les peuples de la terre font comme ça. Tous les peuples, chrétiens ou pas chrétiens, c'est toujours la faute d'un mauvais esprit. Hein. C'est toujours la faute d'un diable, quelque part caché. Je crois qu'il nous faut malheureusement avouer que Satan a très souvent bon dos dans le quotidien des hommes. Alors ce n'est pas pour nier la puissance de feu de Satan ici, ni son pouvoir de nuire, mais il faut quand même remettre les choses à leur place. Dieu a commencé à interroger Adam, et non pas le serpent. Donc ça veut dire qu'il y a un ordre des responsabilités. Et de même que pour Adam, il n'y a de la part d'Ève aucune repentance. Mais ça m'a choqué. Parce que nous, on a tendance, quand on pêche, à dire « Bon, Seigneur, ok, pardon. » Là, il n'y a pas de repentance. L'expression d'aucun regret d'avoir trahi sa confiance. Ève ne demande même pas grâce pour son mari, comme Adam ne l'a pas fait. On ne pense pas à l'autre. Dieu est évincé du monde de la femme comme Dieu est évincé du monde de l'homme. La femme que Dieu a créée confirme ici le troisième mouvement de repli de l'homme vis-à-vis de Dieu dans l'accusation d'autrui et de la négation de ses propres fautes. Les femmes peuplant la terre se reconnaissent-elles aujourd'hui dans un tel comportement? On arrive à la fin. Passons au verset Genèse 3, verset 22-23. L'Éternel Dieu dit « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous » et ça c'est formidable. Pour la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que le serpent là-dessus n'a pas menti. Attention, tout ce que le serpent a dit n'est pas faux. On pourra le voir. Il est devenu comme l'un de nous, oui, il s'est passé quelque chose de nouveau. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Je souligne ici, je l'avais déjà dit une première fois, que l'homme n'est pas né par nature invulnérable et éternel. Si l'homme et la femme furent dit éternel ou immortel, c'est parce qu'ils avaient accès à l'arbre de vie. Une fois chassé, il n'y a plus de vie éternelle. Empêchons-le de tendre sa main, d'en manger et de vivre éternellement. C'est écrit, hein, je n'invente rien. Et là, le plus important, l'Éternel et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il était, d'où il avait été pris. Adam et Ève sont par la suite, comme on vient de lire, évincés du jardin d'Éden sans jamais implorer une deuxième chance. Ils auraient pu le faire. C'est incroyable, quel dommage. Je suis certain que Dieu est bon. Je suis certain que si au moins l'un d'entre eux avait imploré la grâce, certainement la chute aurait été consommée et le péché. Mais peut-être que les châtiments, peut-être que la suite de la vie aurait été différente. Qui sait? On ne sait pas. En tout cas, il manquait là la repentance. Adam et Ève font semble-t-il le choix de l'endurcissement, ne cherchant apparemment pas à renouer avec Dieu. Du moins, rien dans les versets qu'on lit ne laisse supposer. Cette image des petits êtres fragiles et nus, se trouvant confrontés à l'autorité écrasante du Dieu, hein, du Dieu créateur, ainsi qu'à ses folles exigences. Vous voyez, cette image de petits êtres fragiles s'évanouit assez rapidement, comme on le voit, une fois tout ceci exposé. Mais ce n'est pas encore terminé. Dernier petit rebondissement. Le verset qui va suivre va témoigner du comble de l'endurcissement du cœur d'Adam et Ève et de leur rébellion. Hein. Ce n'est pas simplement un péché, il y a une rébellion vis-à-vis de Dieu. Passons au verset 24 de la Genèse 3. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Des chérubins, des anges donc, avec une épée, donc armée, pour garder le jardin. Vous savez, le Seigneur avait dit pour garder le jardin. Il avait demandé ce service à Adam pour qu'il garde. Mais il n'a pas changé d'avis. Hein. Il faut toujours le garder. Hein. Donc il place des chérubins. Il peut paraître surprenant que Dieu ait ordonné que le chemin conduisant à l'arbre de la vie soit désormais gardé par l'épée. Au départ, il devait être gardé par un homme et par sa femme. Désormais, ce chemin sera gardé par l'épée. Sachant que les premiers hommes qu'on imagine à tort affaiblis, affligés, venaient d'en être chassés. On les imagine tout là, tout repentant. Non. À tort. Pourquoi Dieu placerait-il des gardes armés devant une porte, devant un chemin, s'il n'existait aucune menace? Dieu n'est pas idiot. Dieu semble anticiper cette fois-ci une nouvelle forme de rébellion de la part des hommes en vue de s'approprier le fruit de l'arbre de vie éternel. Ça va loin, cette affaire. C'est le quatrième et dernier mouvement de repli de l'homme vis-à-vis de Dieu, s'exprimant ici par le biais du vol, accompagné éventuellement de violence. Voler. Voler ce qui appartient à Dieu. Vous savez, le jardin n'était pas celui d'Adam et Ève. Dieu le leur avait confié. Ce n'était pas le leur. Ce qui est dans le jardin, c'est à Dieu. On ne s'en empare pas comme ça. Là, il s'agit de vol. L'intention de voler est sous-entendue ici. Dieu, en tout cas, y pense certainement. Alors peut-être que j'ai tort de dire ça, mais ça m'a fait penser à ça. La précaution prise par Dieu pour empêcher l'homme de s'emparer par la force de l'arbre de vie montre combien à ce stade il ne lui était plus possible de faire confiance à un homme potentiellement violent, désormais vaincu par les passions luttant au sein de ses membres. Que serait en effet devenu le projet de rédemption de Dieu si la terre avait été peuplée d'hommes méchants mais possédant la vie éternelle? Imaginez, déjà nous sommes mortels, mais imaginez les dégâts qu'on fait. Imaginez des hommes possédant la vie éternelle. Ce serait la catastrophe. Ça aurait été, la terre n'existerait plus aujourd'hui. Dieu est sage et bon. Vous voyez, on voit toujours les punitions comme étant des... Non. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta sévérité. Merci pour ton autorité. Merci pour ta clairvoyance. Ainsi le jardin, autrefois si paisible, serait-il désormais gardé par les armes? Quelle tristesse! Quel contraste avec le plan initial du tendre Père qu'avait été Dieu dès l'origine. Ah, il y a le contraste. Je finis avec une conclusion qui est une prière. Alors avant cette prière, nous allons faire une récapitulation. Parce que ça fait beaucoup de choses. L'homme et la femme ne supportent plus le regard de l'autre sur leur nudité et leur fragilité. Leur relation se dégrade. L'homme et la femme ont des relations qui se dégradent. L'homme et la femme ne supportent plus le regard de Dieu sur leur personne. Une distance s'installe entre l'homme et la femme et entre l'homme et Dieu. Ensuite, l'homme et la femme connaissent désormais la peur. Le mot peur est cité dans les passages. J'ai eu peur. Ils sombrent dans le mensonge, dans l'accusation, dans le rejet de leur responsabilité. L'homme s'en prend même à Dieu. L'homme s'en prend à Dieu, vous savez. On désigne toujours la femme comme étant celle qui a entraîné la chute, etc. Mais il faut bien regarder les textes. Il faut bien remettre en place toutes les responsabilités. Et je ne pense pas que ça ait échappé à Dieu. Je ne pense pas du tout. L'homme retient certaines choses. Il faut revoir tous les éléments. L'homme s'en prend même à Dieu. La femme n'a pas osé faire ça. Les relations homme-femme se sont détériorées. L'homme et la femme ne demandent jamais pardon à Dieu et refusent le dialogue avec lui. Satan sera désormais écouté et Dieu moins écouté, voire rejeté. Ils perdent le privilège de la vie éternelle et sont chassés du jardin. Mais si ce n'était que ça, vous savez, mourir, le corps meurt et après, si on a la vie éternelle, si on a une vie spirituelle derrière, ça va. Ils perdent la vie éternelle du corps, ils étaient corporels, mais ils sont désormais spirituellement corrompus. C'est ça le pire. Et la conclusion, c'est ça, ils sont spirituellement corrompus. Il n'y a pas que leur corps qui va mourir. Oui, mais c'est rien ça, la mort du corps. Ils sont corrompus, la mort de l'âme. Et ils respirent désormais la violence. Cet épisode se termine par un avant-goût de violence. Donc, je termine avec cette conclusion qui est une prière. Le but n'est pas ici de culpabiliser qui que ce soit. Nous sommes tous informés que nous sommes pécheurs. Nous avons tous pris conscience avec les lettres de Paul, lettres aux Romains, notamment avec l'Évangile, que nous avions péché. Nous avons tous compris ça. Ici, le but, c'est pas de larmoyer et de se dire que ah, ouais, c'est vrai, on a péché, on est pécheur, on est mauvais, on le sait. Le but ici, c'est de se dire que nous n'avons pas été trompés. Nous n'avons pas été violentés par Dieu. Nous n'avons pas été trahis par Dieu. Les premiers hommes n'étaient pas ce qu'on croyait. Ce n'était pas du tout ce qu'on croyait. Ce n'est pas si fragile, n'est-ce pas? Et ils n'étaient pas si dénués de répondants. Hein. Ils avaient du répondant. Donc c'est ça qu'il faut remettre. Et quand on voit comment Dieu, lui, s'est comporté face à ça, le calme, il s'est approché de l'homme, il ne l'a pas rejeté. Il a poursuivi de ses ardeurs bienfaitrices. Il lui a donné la parole, il lui a donné la possibilité de s'exprimer, de répondre. Il a respecté une certaine hiérarchie, un certain ordre logique, en commençant par Adam, qui avait reçu le premier, les avertissements. Oui, tout est logique de la part de Dieu. Tout est juste, tout est bien, bien posé. Qu'est-ce qu'on a reproché à Dieu là-dedans? Il avait averti de la mort. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Dieu dans cet épisode? Rien. Malheureusement, dans notre inconscient, l'homme pense quelque part, la femme pense que là, il y a eu quelque chose de trop rapide, hein, qu'il y a eu un piège. Non, c'est ce que je voulais rétablir, parce que j'ai été touché simplement par ce passage-là. Alors, je termine par cette conclusion qui est une prière. Donc moi, je rends grâce, et j'espère vous avec moi, je rends grâce à Dieu de nous avoir tant aimés dès l'origine. Alors moi, je sens l'amour de Dieu dans sa façon de faire. Je n'ai pas besoin d'attendre que Jésus arrive 2000 ans après. Quand on voit la douceur du Père envers l'homme, dès le départ, mais on est touché par cela. Quoi. Il a été tendre dès le départ. Dès l'origine, de ne s'être jamais définitivement découragé de l'espèce humaine, d'avoir toujours honoré l'image de Dieu en nous, qu'il a voulu, de nous avoir laissé une seconde chance en nous envoyant Jésus son Fils, le deuxième Adam, le Sauveur. Oui. De tenir encore jusqu'à présent sa porte ouverte, et dans le jardin il a tenu sa porte ouverte en demandant à Adam et Ève de s'expliquer, la porte était ouverte, la porte ne s'est jamais fermée. De tenir jusqu'à présent sa porte ouverte en notre faveur et de nous avoir envoyé le Saint-Esprit pour nous soutenir encore aujourd'hui dans notre marche avec lui, nous qui sommes chrétiens. Considérons ensemble l'infinie bonté de Dieu au travers de ce passage. Amen. Merci. Voilà.